Il est 19h21.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthès.
On avait presque oublié ces rendez-vous présidentiels pour nous donner des nouvelles de la pandémie. Et pourtant, c'est presque deux dernières années. Il y a eu les rendez-vous des mauvaises nouvelles. Nous sommes en guerre, on confine, gardez les masques, pas de vacances ou presque. Il y a eu les rendez-vous de bonnes nouvelles. On enlève les masques, on a des vaccins, on ouvre les restaurants. Il y avait si longtemps qu'on a peut-être, nous aussi, un peu oublié certains gestes barrières. Soyons honnêtes, nous sommes dans un pays plutôt bien vacciné, à deux doses. En tout cas, même s'il reste évidemment de quoi faire. Nous avons passé un automne quasi normal, même si les masques sont toujours dans nos poches et au fond de nos sacs et que le réflexe de les mettre dans les transports et les magasins est resté. Moi, j'avoue par exemple que je me lave beaucoup moins souvent les mains au gel hydroalcoolique qu'à une certaine période. C'est vrai que c'est pas très bien, mais enfin, je dois pas être la seule. Voilà à peu près où nous en sommes, avec encore quand même beaucoup de questions et peut-être aussi quelques questions nouvelles. Alors, en attendant de savoir ce que nous annoncera le président, refaisons donc ensemble un point. Ça nous permettra d'y voir plus clair. Est-ce qu'on a trop lâché justement sur les gestes barrières? Est-ce que le Covid est toujours largement sous contrôle? Est-ce que vous avez tranché, vous, l'idée de vacciner les 5-11 ans? Est-ce que les effets de la vaccination sont réellement en train de s'estomper gravement? Et comment? Est-ce que vous êtes prêt, du coup, à cette troisième dose? Et peut-être plus vite, d'ailleurs, faut-il rouvrir les centres de vaccination, le faire dès maintenant, y compris pour les moins de 65 ans? Où en sont les chaînes de contamination? Parlons-en ensemble, c'est le téléphone sonne. Et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Céline, on est ravis de vous accueillir, c'est vous la première, soyez la bienvenue.
Oui, bonjour, merci de m'accueillir. Alors moi je vous appelle en tant que maman de 4 enfants, dont 2 en dessous de 12 ans. Et je voulais manifester moi mon opposition formelle à la vaccination des enfants. Je ne parle pas du tout de la vaccination en général, ni sous la forme d'obligation, ni sous la forme de proposition, mais sur la vaccination des enfants, pour moi, personnellement et pour beaucoup de mes amis, et des parents qui sont autour de moi, ce sera vraiment, on dépassera le seuil de l'acceptabilité. Il y a quelque chose qui paraît vraiment impensable à partir du moment où on a pu vacciner les populations fragiles, où chacun a fait ce choix-là, où chacun s'est engagé dans cette citoyenneté, où je ne sais pas comment le dire. Pour la question des enfants, c'est tout autre chose. Il y a un autre arbitrage, il y a une autre balance bénéfice-risque, et on est aussi quand même toujours dans une situation de vaccin en phase expérimentale. Donc voilà.
J'allais vous poser la question justement de savoir pourquoi vous ne considérez pas, et je vous pose la question à vous Céline parce que vous êtes là, mais visiblement vous n'êtes pas la seule au standard en ce moment, pourquoi vous ne considérez pas le vaccin contre le Covid comme un vaccin classique, puisque j'imagine que sur les autres vaccins, vos enfants sont vaccinés?
Oui, absolument. Alors déjà, on peut quand même repréciser qu'un vaccin, c'est jamais anodin, c'est quand même une injection.
Certes, oui.
Et que c'est pour ça qu'on utilise cette fameuse balance. Donc moi, je considère en tout cas que ce vaccin-là n'est pas un vaccin comme les autres, et que si moi, je peux me l'infliger parce qu'il y a un enjeu collectif de taille et qu'on était dans une situation de blocage total, pour la question des enfants, c'est tout autre chose. Sachant en plus que les enfants ne sont pas malades. D'après la société de pédiatrie, l'Institut Pasteur ne sont pas tellement vecteurs. Je ne vois pas pourquoi on n'appliquerait pas le principe de précaution. Voilà.
Merci beaucoup Céline pour votre appel et aussi pour cette remarque et cette question. C'est intéressant, on en parlait dans l'émission précédente et pas plus tard qu'hier d'ailleurs. Tous les pays comme nous sont dans cette espèce d'entre-deux pour les 5-11 ans qui sont quand même très très jeunes. Pour en discuter et dialoguer ensemble jusqu'à 20h, Philippe Amouyel est avec nous, professeur de santé publique au CHU de Lille, avec Jacques Battistoni, aussi médecin généraliste, président du syndicat MG France. Je vous salue tous les deux, messieurs, et je vais vous poser la question l'un et l'autre à votre tour. Philippe Amouyel, cette réticence de notre amie Céline, cette vraie interrogation sur les enfants, on a vraiment le sentiment qu'elle est partout. Vous en pensez quoi pour l'instant ?
Bonsoir. Cette réticence, elle est tout à fait légitime. Aujourd'hui, on n'a pas encore eu d'avis formel de l'agence européenne, bien sûr, et pas de l'agence française ni de la Haute Autorité de Santé. On a un effectif d'enfants qui ont été vaccinés qui est relativement faible, que ce soit avec le vaccin de chez Pfizer ou le vaccin de chez Moderna. On a un élément supplémentaire qui va s'ajouter à titre d'information, c'est le déclenchement de la vaccination aux États-Unis. En effet, là-bas, les enfants ont des facteurs de risque un peu plus fréquents que ce qu'on a en France et ils ont voulu déclencher sur les 28 millions d'enfants
de moins
de 12 ans.
Pardon de vous interrompre, monsieur Amouyel, pourquoi il y a un facteur de risque plus important chez les petits Américains?
Eh ben, un des facteurs de risque de forme grave, c'est la surcharge pondérale et l'obésité.
D'accord, ok,
et
j'ai compris.
Et là-bas, c'est un problème qui touche les adolescents et les plus jeunes de 12 ans.
D'accord.
Donc, ils ont eu plus de cas graves que nous n'en avons eu, d'où leur urgence de les protéger et de les vacciner. On estime à peu près qu'un tiers de la population, des parents américains, sont prêts à faire vacciner leurs enfants. Donc, on aura là, d'ici quelques semaines, près de 5 à 9 millions d'enfants qui vont être vaccinés, ce qui nous donnera une meilleure vue par rapport à ce qu'évoquait Céline sur la balance bénéfice-risque.
Alors, où est-ce qu'on en est ? Parce que moi, j'ai l'impression quand même, là, pour le coup, comme nos auditeurs, qu'on a entendu beaucoup de choses assez contradictoires sur la contagiosité des enfants. Qu'est-ce qu'on dit là-dessus, Philippe Amouyel ?
Alors, au départ, on a pensé que les enfants transmettaient moins. Mmh. Et puis après, on s'est aperçu, en fonction de la diffusion de l'épidémie sous confinement et du retour à l'école, puisque la France, à juste titre, a fait une balance bénéfice-risque en faveur du bénéfice du maintien des écoles ouvertes, on s'est rendu compte qu'on avait des foyers de contamination scolaire qui venaient contaminer les familles. Donc finalement, le niveau de transmission était à peu près équivalent à celui des adultes dans ce contexte. Donc on est revenu sur ces avis en termes de transmission, hein, je ne dis pas en termes de forme grave ni de gravité, ça s'est toujours resté à un niveau extrêmement bas, et tant mieux. En revanche, on a dit, à un moment, il faut faire porter le masque aux enfants en dessous de 12 ans et jusqu'à 6 ans, parce qu'à cette période, ils sont susceptibles d'être vecteurs, parce que plus prompts à échanger entre eux dans cette classe d'âge, et ensuite à ramener les virus à la maison. Donc, il existe en effet une transmission par les enfants, et d'autre part, il existe une infection des enfants qui constitue, pour le virus, un lieu de réplication qui pourrait être susceptible par la suite d'une pérennisation, voire de l'apparition de mutants.
Philippe Amouyel, avant de donner la parole à Jacques Battistoni, j'ai pas pu m'empêcher d'entendre aussi dans la question de Céline l'idée que lorsqu'elle parle de du côté même citoyen en fait de cette vaccination, tout en appuyant sur le fait que ce vaccin est en phase 3, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que ça veut dire que la phase 3, parce qu'on entend et je vois là venir des questions sur la phase expérimentale du vaccin. Est-ce qu'on peut remettre ces points-là très concrètement sur les i?
Alors, tout médicament va subir une série d'essais et va être mis sur le marché après avoir fait des études de phase 3, des études cliniques de phase 3, qui ont une caractéristique, c'est-à-dire qu'on compare un groupe avec un placebo de manière totalement aveugle. Ensuite, ces phases 3 sont examinées par les agences qui regardent si on peut les mettre sur le marché. Et on passe à ce moment-là dans la phase 4, qui est la phase de mise sur le marché. Pour une indication, il y a normalement un type de phase 3 et une mise sur le marché. Pour les enfants, aujourd'hui, dans ce type d'analyse, elles sont relativement récentes. Les résultats sont sortis à l'automne et sont en train d'être examinés. Mais ça ne veut pas dire que c'est un vaccin expérimental. Ça veut dire que on a besoin de ces études cliniques pour justement mesurer cette balance bénéfice-risque dans un certain nombre, avec un certain nombre de patients. Après, charge aux agences d'estimer si les données sont suffisamment convaincantes ou non pour pouvoir l'ouvrir sur le marché et le mettre en phase 4.
Jacques Battistoni, je ne vous ai pas oublié, je vous mets Guillaume entre les mains. Bonsoir Guillaume.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, moi je me pose des questions, là, toute cette effervescence autour de la troisième dose. Alors dans le même temps, le réseau SantiWeb calcule 120 cas pour 100 000.
Attendez Guillaume, excusez-moi, pouf, on va recommencer parce que je ne sais pas comment vous avez bougé ou etc. Mais on vous a entendu comme si vous aviez changé de pays entre deux phrases. Donc allez-y, recommencez à zéro,
oui,
c'est parti.
Oui, bonsoir, donc je voulais savoir pourquoi toute cette effervescence autour de la troisième dose, puisque dans le même cas, le réseau SantiWeb, lui, comptabilise 120 cas pour 100 000, donc 0,12%, toute infection respiratoire confondue. Alors pourquoi ?
Eh bien, une question rapide, réponse rapide peut-être, Jacques Battistoni. Est-ce qu'il y a des signes qui nous inquiètent pour qu'on reparle effectivement à nouveau de troisième dose, d'étaler même la troisième dose au-delà des plus de 65 ans ? Pourquoi on est inquiet là en ce moment ?
Oui, bonsoir à tous. D'abord, on est inquiet parce que d'abord il y a une petite remontée. Alors bien sûr, notre auditeur souligne que c'est pas très important. C'est vrai que ça redémarre de façon très douce, mais on a cessé d'être en phase de descente et on a un R qui est supérieur à 1 depuis déjà plusieurs semaines. Et donc toutes les semaines, tous les jours pratiquement, il y a un petit peu plus de malades. Et évidemment, on a l'expérience des vagues précédentes et on se demande si ça va pas continuer à monter comme ça et éventuellement à quel moment ça va pas s'accélérer. Alors pourquoi faut-il faire une dose de rappel ? on a vu quand même, on a regardé ce qui s'était passé, notamment pendant l'été, et on a vu que des gens qui avaient été vaccinés étaient néanmoins malades, de façon moins importante, bien sûr, notamment les gens qui avaient été vaccinés avec le vaccin Janssen. Et on sait que quand on est âgé, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on vaccine contre la grippe tous les ans, on a une immunité qui baisse plus vite que quand on est plus jeune, et que donc et les personnes âgées en sont bien conscientes. Si on veut être bien protégé, il faut certainement avoir un taux d'anticorps suffisant.
Mais est-ce que ça veut dire qu'il faudrait ouvrir les vannes, pardon de le dire comme ça, plus rapidement et maintenant, d'ailleurs pour la troisième dose, dès lors qu'on est à six mois après de la deuxième dose, parce que de toute façon, on va tous finir à la troisième dose, ou ça c'est pas sûr encore?
Aujourd'hui, c'est ce qui est important, c'est de vacciner les gens qui ont une immunité qui n'est pas suffisante pour les protéger efficacement. Et ça, c'est avant tout les personnes âgées, avant tout les gens de plus de 65 ans, comme les gens qu'on vaccine contre la grippe. Et je dirais à mesure qu'ils arrivent à l'échéance des 6 mois. Et beaucoup de ces personnes âgées aujourd'hui, moi j'en ai vu aujourd'hui plusieurs, me disent bah non, c'est moi 6 mois, c'est au mois de décembre, au mois de janvier, c'est pas encore maintenant. Donc je crois qu'il faut y aller progressivement et il faut surtout protéger d'abord, comme on l'a fait depuis le début, les personnes qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les personnes qui ont une immunité qui n'est pas très bonne.
Après, Philippe Amouyel, ce que je constate moi en regardant les chiffres, c'est qu'il y a effectivement une augmentation du nombre de cas, mais qui ne met pas l'hôpital sous tension du tout. Donc, est-ce que ça veut dire que, grâce à la vaccination, effectivement, on est dans une forme désormais de contamination, qui sont des contaminations nettement moins graves, en tout cas dans la population des gens qui sont vaccinés, et que du coup, effectivement, comme le disait notre ami auditeur à l'instant, au fond, paniquer ne sert à rien.
Alors oui, on a une espèce de bouclier vaccinal qui a permis de découpler la montée des cas avec l'augmentation des formes graves dans les services de réanimation. On l'a très bien vécu cet été, on l'a moins bien vécu bien sûr dans les territoires d'outre-mer où les personnes étaient beaucoup moins vaccinées. Le seul problème, c'est qu'on se rend compte, et ça c'est à la lumière des études israéliennes et du pic israélien qui a été observé, parce qu'eux étaient vaccinés extrêmement tôt.
Ils ont une très lourde quatrième vague en effet,
Voilà, il y a eu une remontée. Alors, ce qui est intéressant, dans les données françaises, on s'aperçoit que quand on regarde la vitesse de montée des cas, on s'aperçoit que la catégorie d'âge qui monte le plus vite en nombre de cas, même si les chiffres sont faibles, et c'est, ça c'est le côté positif, c'est les 60-80. Donc, avec les données israéliennes, le fait qu'on s'aperçoive qu'on ait le même phénomène de manière indépendante en France, l'idée c'est que derrière ça, il faut faire une troisième dose chez ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les plus de 65 ans. Pourquoi ? Parce que leur risque à ce moment-là, leur protection, pardon, à ce moment-là, diminue d'éviter une forme grave. Et les Israéliens ont bien montré que ceux qui étaient vaccinés 3 doses par rapport à ceux qui étaient vaccinés 2 doses, plus de 6 mois après leur dernière injection, les 3 doses diminuaient par près de 20 leur risque de faire une forme grave par rapport aux 2 doses. Donc c'est justement pour anticiper, le faire suffisamment tôt, potentiellement une augmentation des cas dans les services hospitaliers, qu'il est important de réaliser cette troisième dose. Et il faut savoir que l'épidémie de grippe est en train de revenir. Vous l'aviez fort justement dit, on utilise peut-être moins nos masques et moins le liquide hydroalcoolique. Et cette épidémie, couplée à une augmentation des cas beaucoup moins importante que ce qu'on a connu de Covid, pourrait amener peut-être à une saturation des hôpitaux. Et c'est ça qu'il faut éviter à tout
moment. Mais vous parlez d'Israël à l'instant, Philippe Amouyel. Israël, non seulement effectivement, a donné une troisième dose aux plus fragiles d'abord, et puis désormais, on en est aux 30 ou 35 ans même. On est au-dessous de 40 ans, en tout cas, sur cette troisième dose. Donc, qu'est-ce qui nous empêche au fond de nous dire, même si on ne le fait pas maintenant, que oui, on y passera tous, en fait?
Je crois que c'est clairement la priorisation. À un moment, il y a des priorités. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est passer un hiver serein dans les hôpitaux. Donc, il faut accélérer dans une catégorie de la population qui sont les plus de 65 ans. Aujourd'hui, qu'en matière de balance bénéfice-risque, j'ai pas vu d'études en population qui démontrent que passer une certaine date qui sera peut-être plus longue, des sujets qui sont jeunes, qui sont en pleine santé, ont une diminution ou une augmentation de leur risque. Donc il va falloir attendre ces résultats qui vont probablement venir d'Israël à nouveau.
Jacques Battistoni, vous qui êtes médecin généraliste, est-ce que vous avez le sentiment que les plus fragiles et les plus âgés qui ont déjà eu 2 doses vont spontanément finalement à la troisième dose, ou est-ce que à nouveau vous devez faire preuve de conviction pour les y amener ?
Pas tant que ça. Non, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Les gens les plus âgés, surtout, plus que les plus fragiles peut-être d'ailleurs, ont envie de se faire vacciner. Ils ont fait l'effort de faire les 2 doses pour se protéger, hein, parce que Quand on est âgé, parfois on a peur, hein, on se dit qu'on est à risque de se retrouver à l'hôpital. Parfois on connaît aussi des gens de son entourage qui ont été malades, voire qui sont décédés. Et donc on a envie, puisqu'on a été vacciné, d'être vraiment correctement protégé. Donc tous mes patients âgés, pratiquement, hier, aujourd'hui, m'ont tous demandé quand est-ce qu'ils devaient être vaccinés. Mmh. On a fait des calculs avec eux, ils ont vraiment envie d'être protégés.
Est-ce que ça veut dire d'ailleurs pour vous, le généraliste que vous êtes, parce qu'on se souvient bien au moment du démarrage du vaccin qu'il y avait eu beaucoup de discussions et même des discussions assez vives entre les médecins généralistes, les vaccinodromes, qui doit vacciner, etc. Est-ce que vous avez le sentiment que là, pour le coup, vous généralistes, vous avez peut-être encore plus ce rôle-là à jouer, que les choses et la revaccination se fait de manière beaucoup plus fluide, en fait, y compris, encore une fois, dans qui vaccine, du pharmacien, du vaccinodrome, de l'infirmière ou du médecin généraliste?
Oui, les gens, ils nous demandent une solution, finalement. Mmh. Et donc, moi, je leur propose... Moi, j'ai un centre de vaccination dans ma commune. Il est à 1 kilomètre de mon cabinet. Je leur donne le numéro. Je leur dis, vous appelez demain, on va vous prendre. D'ailleurs, moi, je vais y aller au centre de vaccination, vacciner dans quelques jours. Donc, il n'y a pas de problème. Mais ils peuvent aussi se faire vacciner à côté. C'est pas problème. Ils veulent trouver une solution. Mmh. On la trouve facilement. Ils sont dans un processus de vaccination continue, je crois. Ils l'ont compris.
Michel, bonsoir.
Oui. Bonsoir.
On vous écoute, Michel.
Alors, j'ai 69 ans. J'ai eu une première dose de vaccin il y a 7 mois et j'ai déclaré la Covid ensuite.
Ah ben, pas de chance.
Donc, mon médecin m'a reproposé de faire une autre dose de vaccin et je m'y suis opposée au motif que j'avais sans doute des anticorps. Mm-hmm. Je suis passée par la sérologie et j'ai vraiment tout à fait ce qu'il faut pour me défendre. J'ai beaucoup d'anticorps contre la Covid.
Okay.
Alors, on ne parle jamais des cas de gens qui ont eu la Covid. Je suis immunodéprimée, j'ai l'âge, j'ai tout. Mm-hmm. Mais je considère que je ne suis plus une personne à risque puisque j'ai ce qu'il faut pour me défendre.
Eh ben, on va voir si vous avez raison de le penser. Merci beaucoup pour votre appel, Michel. Philippe Amouyel, est-ce qu'elle a raison d'être optimiste, notre amie Michel, puisqu'elle a été vaccinée et qu'elle a eu le Covid et qu'elle est visiblement remplie d'anticorps?
Alors, pas complètement, parce qu'en fait, aujourd'hui, on n'a pas de corrélation, de lien clair entre le taux d'anticorps que l'on a et le niveau de risque que l'on a de faire une forme grave. Mmh. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le taux d'anticorps ne mesure qu'une partie de l'immunité. Il y a une immunité qu'on ne peut pas capter par les anticorps, qui sont ces immunités qui touchent les muqueuses, qui permettent au virus de ne pas rentrer, et qui pourraient justement être en décalage. Inversement, on pourrait avoir des gens avec des taux d'anticorps très bas qui, eux, auraient une meilleure immunité. Donc aujourd'hui, on n'a pas de seuil, on appelle ça le corrélat, on n'a pas de corrélation entre les deux. Donc, d'une manière générale, il vaut mieux le faire en fonction de la date à partir de laquelle vous avez eu le dernier contact ou la dernière injection. Alors, j'imagine que le Covid a été fait à une période où la première dose n'avait pas encore fait son efficacité.
Oui.
Donc, ça suppose que, en fonction du moment où Michel a fait son infection, il aurait quand même été nécessaire d'avoir une deuxième dose. Alors, tout dépend du vaccin qui a été utilisé. Et en fonction de l'estimation de la date de cette deuxième dose, d'envisager, là encore, une troisième dose, en raison de son âge et justement pour éviter ce type de risque.
Ce que je comprends en vous écoutant, Philippe Amouyel, parce qu'on a tous plus ou moins, alors tous non, peut-être pas, mais un certain nombre à avoir joué à ça, aller faire une sérologie pour voir effectivement quel est notre état d'anticorps, c'est important de rappeler que, c'est ce que je viens de comprendre en vous écoutant, que ça ne dit pas grand-chose en fait, qu'on en ait peu, qu'on en ait beaucoup, ça ne dit rien de notre état d'immunité au moment où on le fait.
Oui, au niveau individuel, ça ne dit rien.
Okay.
C'est pour ça que il était important qu'on ait des données en population comme les données israéliennes pour bien confirmer qu'il y avait un bénéfice, parce que le simple taux d'anticorps ne suffit pas à garantir que vous êtes réellement protégé.
Christine est avec nous. Bonsoir, Christine.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Bonsoir. Oui, donc ma question, c'est sur le sens du port du masque dans des lieux de théâtre, enfin dans des endroits où il y a le pass. Donc voilà, tout le monde rentre, est contrôlé, tout le monde est vacciné. Et en fait, c'est arrivé plusieurs fois, donc je me dis, soit il y a eu des consignes qui m'ont échappé, ou une logique, parce que moi, ça me pique en fait.
Vous donc, quoi, pardon, dit... excusez-moi, Christine, votre téléphone a haché, je n'ai pas entendu, vous disiez quoi? Votre logique?
Je disais, Je disais qu'on nous dit, une fois installé sur notre siège, alors que la salle est pleine, vous pouvez enlever votre masque parce que vous n'allez pas bouger.
Mmh. Intéressant, parce que moi je ne l'ai jamais entendu, Christine, merci beaucoup. Et c'est vrai, Jacques Battistoni, qu'on a l'impression que c'est différent d'un endroit à l'autre. À Christine, on dit c'est bon, ouais, puisque vous aviez tous votre passe, vous pouvez l'enlever. Moi j'étais au cinéma il n'y a pas très longtemps, le masque était recommandé. Dans une autre salle de cinéma, le masque est obligatoire. On finit par être un peu perdu là-dessus.
Oui, moi aussi, je me suis fait la même réflexion avec, à partir des mêmes constats que vous, cinéma, et puis également aussi dans une grande salle où on était nombreux, on était rentrés avec un masque, enlevé le masque après. Il faut pas perdre de vue quand même que quand on respire, et à forte raison si jamais par hasard on est un peu enrhumé, qu'on a le malheur de tousser, on projette devant soi des gouttelettes, et que je crois qu'une mesure simple quand même, même si on a le pass sanitaire, c'est que dans les grands lieux publics, quand on se retrouve tous ensemble dans les salles de cinéma, on peut probablement continuer à porter le masque, on ne bouge pas, on n'a pas d'effort à faire et peut-être pas un effort majeur.
Si les cas remontent, Jacques Battistoni, est-ce qu'on peut imaginer, ça va être compliqué pour nous tous, mais qu'il faudra nous remasquer dans la rue, c'est possible ça ou pas?
Oui, alors le problème c'est de mettre des règlements. Hein, quand vous mettez dans la rue, dehors, pas dehors, évidemment il y a des moments dans la rue où ça n'a pas grand intérêt parce qu'on a une distance respectable avec les gens, mais il y a aussi des endroits où les gens sont très près les uns des autres et là où effectivement on peut se contaminer les uns les autres. Donc c'est la difficulté de mettre un règlement et qui va forcément s'imposer dans tous les cas. Mais il est possible quand même, on a bien demandé aux enfants dans certaines classes de remettre les masques, il est logique que les adultes fassent aussi un effort si jamais l'épidémie redémarre, ce qui à mon avis n'est pas encore ne l'impose pas encore pour l'instant.
Philippe Amouyel, on entendait tout à l'heure dans le journal, puisqu'on faisait un point de l'état de la vaccination, qu'en gros 80% de la population en France était vaccinée au Pfizer, ça descend très très bas pour ce qui est de Moderna et encore plus bas pour AstraZeneca. On se souvient pourquoi. Est-ce qu'il y a un certain nombre, à ce que nous savons aujourd'hui, si de nouveaux effets secondaires ont été décelés et inscrits dans la pharmacologie, ou est-ce que, pour le Pfizer notamment, parce qu'on sait que pour le Moderna, donc les moins de 30 ans désormais en sont exclus, est-ce que c'est pareil aussi pour le Pfizer? Est-ce que de nouvelles choses ont été inscrites dans la pharmacologie ou est-ce qu'on est vraiment sur une ligne assez droite?
Pour l'instant, sur le Pfizer, il n'y a pas eu d'alerte supplémentaire, que ce soit en fonction de l'âge ou que ce soit au niveau des contre-indications. C'est les alertes qui ont été confirmées récemment, comme sur le Moderna, portées en particulier sur ce qu'on appelle les myocardites et les péricardites, des petites inflammations du cœur qui sont souvent dues par les virus, le virus de la grippe, qui généralement sont d'évolution favorable et qui surviennent chez les plus jeunes. Donc, pour ça, en termes de précaution, on préfère maintenant ne plus vacciner au Moderna les sujets qui ont moins de 30 ans. Comme on l'a fait, on a mis cette limite au fur et à mesure du temps pour le vaccin d'AstraZeneca. Pour le Pfizer, à ce jour, on n'a pas d'éléments nouveaux ou d'alertes nouvelles qui imposent de telles réglementations.
Est-ce que vous diriez, vous, pour rebondir sur ce qu'on disait à l'instant avec Jacques Battistoni, qu'on s'est un peu relâché sur les gestes barrières et que peut-être c'est ça qui peut nous rattraper à minima au tournant?
Et oui, on s'est relâché. C'est légitime, c'est naturel. Et on s'en rend compte. Pourquoi? Parce que, à même époque, l'année passée, quand on maintenait serré nos gestes barrières et qu'on avait même, alors c'était peut-être pas forcément nécessaire, un masque en extérieur, on n'avait plus de grippe, on n'avait plus de gastro-entérite, on se repassait bien les mains au liquide hydroalcoolique. Et puis, on avait beaucoup moins de bronchiolite, voire quasiment pas chez les enfants. Donc, ça veut dire que la percée qu'on voit à nouveau des anciennes, si on peut dire, infections virales, est essentiellement due à la diminution du port du masque, la diminution du lavage des mains.
Jacques Battistoni, puisqu'on était tout à l'heure dans la troisième dose, faut-il l'accorder, si je puis dire, selon vous, au pass sanitaire? Le sous-entendu de ma question, c'est est-ce que vous avez le sentiment, vous, que ce pass qui a été décrié au début et puis qui finalement, aujourd'hui, passe plutôt sans qu'on s'en rende compte, est-ce que ça a, selon vous, contribué au fait qu'on a passé, pour dire les choses clairement, un automne assez serein, ou en tout cas un début d'automne assez serein?
Le pass sanitaire, on l'a tous observé, je crois, a donné un très grand coup d'accélérateur à la vaccination pendant l'été. Ça a été impressionnant. On a passé le 12 juillet, quand le président de la République s'est exprimé, on a vu dans les centres de vaccination et dans les cabinets une demande qui a cru de façon très très importante.
Il paraît que ça remonte d'ailleurs en ce moment, justement parce qu'on a, en attendant la déclaration d'Emmanuel Macron, tout le monde est revenu vous voir.
Oui, tout Oui, tout à fait, c'est exact. Les rendez-vous pris sur les plateformes qui permettent de s'inscrire dans un centre de vaccination ont beaucoup augmenté aussi, c'est tout à fait étonnant. Donc, je crois que, en tout cas, coupler la troisième dose avec le pass sanitaire, aujourd'hui, ça serait extrêmement prématuré, dans la mesure où les gens éligibles à cette troisième dose ne sont pas si nombreux. Je rappelle, c'est les plus de 65 ans, mais 6 mois après la dernière dose. Et donc, ça fait... aujourd'hui, on a vacciné 30% des gens de plus de 65 ans avec une troisième dose. Et c'est pas mal, finalement, sachant que pour un bon nombre d'entre eux, ils ont encore un petit peu de temps, quelques semaines, avant de devoir se faire vacciner.
Philippe Amouyel, Christian est à Clermont-Ferrand, sur franceinter.fr, il ne nous dit pas quel âge il a, c'est dommage, mais il demande s'il faut avancer la date de sa troisième dose ou est-ce qu'il peut attendre fin janvier pour avoir les 6 mois requis pour cette vaccination. Donc il doit avoir l'âge, si je comprends sa question.
Oui, il peut attendre. Clairement, la cassure se fait à partir du sixième mois, la cassure dans la diminution de la protection. Donc de ce côté-là, ça sert à rien d'avancer plus particulièrement la date de la dose, sous réserve qu'il n'ait pas d'autres points, d'autres particularités qu'il nécessiterait comme un déficit immunitaire ou des choses comme ça. Mais s'il avait plus de 65 ans, il faut attendre les 6 mois après sa deuxième dose.
Quand on dit cassure, d'ailleurs, ça veut dire quoi? Est-ce que l'immunité tombe en flèche, vraiment, boum, comme une pierre ou pas?
Non, c'est plus une côté cassure-bénéficerie, c'est-à-dire qu'à un moment, on voit que le bénéfice par rapport au risque change un peu de pente, hein, c'est-à-dire qu'il va un peu plus vite, et donc on prend ce point de cassure de la courbe pour dire, ben voilà, c'est au-delà de ce seuil qu'on prend une décision de revacciner.
Je vais quand même vous poser la question, puisqu'on va arriver doucement vers 20h, dans un peu moins d'un petit quart d'heure maintenant. Philippe Amouyel, il y a des choses que le médecin que vous êtes attend du président de la République pour peut-être faire accélérer un certain nombre de choses ou pas du tout? Est-ce qu'on est, selon vous, encore dans une période où on peut s'en passer, enfin on sait quoi faire, en quelque sorte, nous et vous?
Non, je pense qu'il est quand même important, alors je vais prendre un mauvais jeu de mots, de faire une piqûre de rappel sur toutes les actions. Et ce qui est très intéressant, c'est que le président n'a pas encore fait son allocution, qu'on sent déjà un frémissement dans les centres de vaccination. Comme le disait fort justement mon confrère, on a la même chose à Lille, on a de plus en plus de demandes, avec l'idée que finalement, on va y aller. Alors, on pourrait avoir ce petit effet... accélérateur de la vaccination comme on a connu au 12 juillet. Mais là, on va au-delà, on n'a pas encore le pass sanitaire, il y a un impact du message. Donc s'il y a un rappel de ces gestes barrières avec une explication claire et solide, alors peut-être que si on veut accélérer les choses, on peut mettre une échéance à partir duquel le pass sanitaire pourrait être lié à la troisième dose. Il faut laisser aux gens, le temps de pouvoir la faire, de pouvoir prendre rendez-vous, parce qu'on risque peut-être d'avoir une affluence monstre comme on avait eu au mois de juillet. Donc je pense que ces éléments sont à prendre avec considération, mais le simple rappel, le simple fait d'insister, de dire on n'est pas encore débarrassé de l'épidémie, il faut le faire très tôt pour éviter que tout ça s'emballe, pour continuer à vivre un peu sereinement, y compris pendant l'hiver et en particulier dans les hôpitaux.
Mais parce que c'est vrai que ce qu'on a en tête, ce qu'on a en tête, c'est que si ça avait tellement bien fonctionné après l'allocution du mois de juillet, c'est parce qu'il y avait une épée de Damoclès au-dessus de la tête des gens, en fait, qui était liée au pass sanitaire à partir du 21 juillet, ce qui a accéléré la vaccination. Est-ce qu'il faut en remettre une couche d'épée de Damoclès, disons les choses comme ça, pour que ça fonctionne et que pour que ceux qui doivent aller à la troisième dose pour l'instant il y a franchement, Philippe Amouyel.
Oui, alors on peut tout à fait envisager ça, mais comme il y a forcément un délai, il faut que l'épée de Damoclès ne tombe pas tout de suite sur la tête des gens et fixer une limite qui pourrait être, début décembre, mi-décembre, en disant voilà, au-delà de ça, pour pouvoir sortir au moment des fêtes où on sait qu'il va y avoir des brassages, qu'il va y avoir des rencontres entre les groupes de plus jeunes, de moins jeunes, de différentes générations. Là, oui, pour pouvoir bénéficier de ça, à ce moment-là, vous aurez besoin du pass sanitaire.
Jacques Battistoni, à votre tour, puisqu'en plus vous resterez avec nous et vous pourrez commenter un peu ce que dit le président de la République, il y a des choses en particulier que vous attendez. Et là aussi, peut-être comme votre confrère, c'est pas du français, une manière de booster à nouveau les gens vers la troisième dose.
Oui, j'allais dire un coup de pouce, effectivement.
Merci.
Un coup de pouce pour motiver, comme on l'a vu au mois de juillet, mais probablement plutôt sur la forme d'un appel à la responsabilité, un rappel aussi que, comme on l'a comme on aurait, c'est pas ce qu'on aurait aimé. On aurait aimé effectivement au mois de septembre à nouveau que ça soit derrière nous. On a tellement envie de tourner la page et la page n'est pas complètement tournée. Et en même temps, c'est pas non plus. On n'est pas comme à la Toussaint l'année dernière. Ça va mieux. Il faut trouver le juste équilibre entre pas baisser la garde, se protéger. Et en même temps, pas non plus imposer des choses qui pourraient entraîner une espèce de réaction de rejet de la part de la population.
On va vous retrouver après l'allocution du président de la République, Jacques Battistoni. Je vous remercie pour ça. Yael Gauz est entrée dans le studio. On va se parler dans une minute. J'ai quand même une dernière question pour vous, monsieur Amouyel, si vous permettez. Puisque vous êtes attaché au CHU de Lille, comment va l'hôpital au moment où on se parle et au moment justement où il y a une crainte d'un peu plus de contamination est-ce que vous l'attendez si elle venait avec une vraie anxiété pour le coup?
Alors si, et on ne le souhaite pas, un pic des contaminations, que ce soit de Covid, mais je pense aussi des autres infections virales survenait, on y fera face, on y a toujours fait face. La seule chose, c'est qu'on y fera face après 4 vagues consécutives et avec des personnes qui sont fatiguées sur une période qui arrive vers Noël. Mais voilà, on y a toujours fait face. Je pense qu'il faut maintenant essayer de construire sur ces problèmes qu'on a eus à l'hôpital. C'est pas juste une question de lit, c'est surtout une question d'hommes et de femmes au chevet des patients qu'il va falloir résoudre.
Merci beaucoup, merci vraiment. Tiens, à l'instant, on a une question d'Aline, on l'a un peu évoquée, mais je vais vous la donner quand même. Est-ce que je remets mon masque à l'extérieur ou pas? Alors, Jacques Battistoni, on lui dit pas encore, Aline?
Ou non, pas encore. Ok. Pas
encore. Oui. Et ben la voilà rassurée. Je vous remercie beaucoup. À tout à l'heure. Il nous reste une, je sais pas, peut-être à peu près 9 minutes. Et je vous salue, Yael Gauz.
Bonsoir, Fabienne.
À 9 minutes de la 9e intervention.
Vous avez fait exprès, chiffre 9.
Mais absolument. Mais je fais tout exprès, monsieur. De la 9e intervention du président de la République autour de ces sujet. C'est un peu ce que j'ai envie de vous demander d'abord, Yael, et avant que ça commence, est-ce qu'elle sert vraiment à quelque chose, cette 9e-là, en fait?
Bah écoutez, elle est un peu charnière, cette prise de parole d'Emmanuel Macron, parce que on est encore dans la présidence de la République, on n'est pas encore dans la candidature, elle viendra en son temps. Il y a un débat d'ailleurs chez les marcheurs pour savoir s'il faudrait qu'Emmanuel Macron soit candidat avant Noël ou après Noël. Bon, ça c'est une histoire politique interne au camp En Marche. Là, il s'agit de faire une piqûre de rappel, au sens encore figuré comme au sens propre, parce que là, le Covid est encore là, avec une incidence qui repart doucement, bien plus doucement que chez nos voisins allemands ou ailleurs ou russes. Hein. Et donc, il faut remettre un petit peu la conscience que l'épidémie n'est pas derrière nous. Il y a ça, et puis il y a aussi plein d'autres sujets. Ça va pas être mono-sujet, contrairement à d'autres allocutions.
On va y aller effectivement aux autres sujets. Un mot quand même toujours sur le Covid. Est-ce que le risque, c'est de remettre une pièce dans « Je suis le président » dans Covid, en quelque sorte, ou au contraire, est-ce que l'idée, c'est qu'il faut absolument qu'on en finisse vite pour qu'on puisse parler politique et campagne électorale en excluant ou quasiment excluant ce thème du Covid?
C'est un peu les deux. C'est-à-dire que vous avez dans la majorité des gens qui craignent un petit peu que ce soir, le président se remette dans la nasse sanitaire, alors qu'il doit enfiler un autre costume désormais. Sauf que le président, il est toujours président, il veut l'être jusqu'au dernier quart d'heure. Et sa priorité, c'est protéger les Français. Protéger les Français contre les crises, crise économique, crise sanitaire. Donc on est dedans, là. C'est pour ça que vous allez avoir une dimension sanitaire, évidemment, ce soir. Qu'est-ce qu'on fait avec le pass? Il est prolongé, vous savez, le Parlement a voté jusqu'à juillet 2022. L'utilisation de l'outil est possible jusqu'en juillet 2022.
Et le Conseil constitutionnel l'a
validé cet après-midi. Et puis vous avez tout ce qui concerne, évidemment, la relance économique. Il s'est passé plein de choses depuis septembre que les Français n'ont pas forcément imprimé. C'est ce qu'on estime chez certains conseillers d'Emmanuel Macron, que tout n'a pas encore suffisamment infusé, des milliards d'euros, une relance keynésienne qui n'a pas forcément imprimé dans l'esprit des Français. Il faut leur dire ce qui a été fait sur le contrat jeune, sur la France 2030, le plan à 30 milliards d'investissement d'ici à 2030. Plein de choses ont été, tout est allé très vite, et il y a une dimension politique aussi, c'est qu'Emmanuel Macron n'a pas eu d'allocution nationale face aux Français comme ça depuis le 12 juillet dernier sur les sujets du quotidien. Or, vous avez une campagne politique présidentielle qui est partie très tôt, tambour battant, dès la fin août, dès la mi-août. Et il est temps pour lui, dit ses proches, de remettre aussi un petit peu sa parole au centre, de se remettre au centre du jeu, au moment où vous avez les Républicains qui enchaînent les débats, où vous avez Éric Zemmour qui a percé dans les sondages. Il faut que le président reprenne sa place aussi centrale.
Alors, c'est le président qui va parler, ou est-ce que c'est, et c'est bien les critiques qu'on va probablement lui faire immédiatement après, ou est-ce que c'est le candidat potentiel?
Bah, on vous dit, en fait, c'est un peu un secret de Polichinelle.
C'est en même temps.
C'est les deux habits. Les deux habits du président sortant et du futur candidat. On vous répondra à l'Élysée qu'il ne s'agit nullement de campagne, mais simplement d'un moment présidentiel, sans doute l'un des derniers. Il y aura les vœux du 31 décembre, évidemment, encore dans ces habits-là, a priori pas encore de candidat. Mais ça interroge certains marcheurs qui vous disent, mais pourquoi ce soir? Qu'est-ce qu'il a à nous dire de si important avant d'être candidat réellement?
Où est-ce qu'il est son taux de popularité en ce moment, Yael Gauz, Emmanuel Macron?
Autour de entre 38 et 42%, selon les instituts de sondage.
Donc ça a un peu remonté, d'accord?
Ça a un petit peu baissé depuis la rentrée, mais il y a des niveaux que François Hollande et Nicolas Sarkozy lui auraient envié à la même époque.
Voilà, c'était ça, effectivement, la comparaison. On en est là, donc là aussi, est-ce que le risque, c'est pas de jouer avec ça, typiquement?
C'est-à-dire, ça dépend si vous partez du postulat que le Covid est un repoussoir dans la tête des Français, quelque chose qu'on veut oublier, tourner la page psychologiquement, et donc l'associer à la crise, associer le président à la crise, c'est l'associer au Covid, donc dans ce cas-là, c'est un aspect négatif. Ou si, au contraire, on estime que Emmanuel Macron a su s'en sortir pas si mal de cette crise. On voit les résultats économiques aujourd'hui, il va sans doute s'en vanter ce soir, dire regardez, d'où on est parti lorsque je vous ai dit nous sommes en guerre au municipal 2020, souvenez-vous, 12 mars, et où on en est aujourd'hui économiquement, avec un taux de chômage qui baisse fort, avec une croissance dont le FMI dit qu'elle pourrait atteindre 7% à la fin de l'année. Donc tout ça est à mettre en balance, et pour Emmanuel Macron, ça peut aussi être un atout. Regardez, je vous ai presque sorti de la crise sanitaire.
Oui. Alors, Covid repoussoir, d'ailleurs, j'allais vous poser cette question, effectivement, ou sortie de crise sanitaire, est-ce qu'on peut dire que, de ce point de vue-là, il a eu un début d'automne assez serein, Emmanuel Macron, le post-passe, on va le dire comme ça, oui, que l'on pouvait craindre parce qu'il y a eu un certain nombre de manifestations, etc. Ça a très peu pris finalement. Les choses sont un peu rentrées dans l'ordre. Enfin, on a tous cette espèce d'habitude, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. En tout cas, nous l'avons. Est-ce qu'on dit que là-dessus, il a réussi son coup, en fait?
On a vu fondre, en tout cas, ces manifestations du samedi, hein, qui rassemblaient jusqu'à 200 000 personnes à la fin du mois de juillet. Souvenez-vous, Florian Philippot, debout sur les tribunes, malmenant parfois aussi certains confrères, certains journalistes. On a vu quand même fondre ces mobilisations. Il en reste quelque chose dans des candidatures qui considèrent que nous sommes en dictature sanitaire, qui disent ça aujourd'hui. Mais c'est extrêmement minoritaire. Et aujourd'hui, la vie presque normale, oui, a été rendue possible par le pass sanitaire. N'en déplaise à certains réfractaires qui considèrent que c'est un flicage au long cours. Tout le débat parlementaire qui a eu lieu, on a entendu Bruno Retailleau à droite ce matin sur France Inter à 8h20, c'est est-ce qu'on peut continuer ce schéma-là éternellement jusqu'en juillet 2022? C'est pour des raisons de calendrier électoral que ça se pose, parce que le 28 février, vous n'avez plus de députés qui siègent. Donc vous ne pouvez pas avoir la clause de revoyure au Parlement et donc resiéger pour revalider ce dispositif. Donc si l'épidémie était amenée à vraiment régresser très très fort, la question du pass, faut-il le lever, se poserait, effectivement. C'est pas la direction qu'on prend ce soir, puisqu'il y a une incidence qui remonte et que on s'attend à ce qu'Emmanuel Macron dise que le pass sanitaire est reconduit pour notamment les plus de 65 ans, troisième dose, pass sanitaire conditionné à cette troisième dose pour les plus de 65 ans. C'est ce qu'on entend, on verra si ça se confirme dans les mots du président.
Parmi les choses, il nous reste deux petites minutes, un peu moins avant le début de cette allocution présidentielle, parmi les sujets qui fâchent, si j'ose dire, y a-t-il des sujets qui désormais, et ce sera peut-être l'occasion, vont devoir être mis sous le tapis?
Vous pensez aux retraites?
Par exemple.
Il y a une clause de revoyure par rapport au 12 juillet. Exactement. Il faut qu'il nous dise, il va nous dire ce soir si oui ou non il abandonne les retraites par rapport à ce qu'il avait dit. Il fallait deux feux verts, une reprise économique forte, elle est là, et des conditions sanitaires réunies. Là, c'est moins vrai.
Restez avec nous, vous revenez dans deux petites minutes, Yael Gauz.